Liturgie de la parole de ce mardi 8 juillet 2025, mardi de la 14e semaine du temps ordinaire, année impaire. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Première lecture. Ton nom sera Israël, parce que tu as lutté avec Dieu, et tu l'as emporté. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 32, versets 23 à 32. Cette nuit-là, Jacob s'éleva, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il le fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda, fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Mais il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Jacob appela ces lieux Phanuel, c'est-à-dire face des dieux, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 9e chapitre du 32e au 38e verset. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante. » Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, mardi de la 14e semaine du temps ordinaire, année impaire. La vie est un combat de tous les jours. Ce qu'on appelle les combats spirituels. En Genèse 22, Genèse 32, de 23 à 32, c'est la première lecture d'aujourd'hui. Genèse 32, de 23 à 32, c'est mystérieux combat entre un personnage surnaturel et Jacob. S'agit-il de Dieu? S'agit-il d'un ange? Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un combat, la nuit. Jacob a assumé toutes ses responsabilités. Il voyage avec ses deux femmes et leurs enfants, 11 enfants. Il les aide à traverser un torrent. Après, ils restent seuls et la nuit, les combats commencent. La nuit ou les nuits de Jacob étaient souvent agitées. On se rappelle, pas plus tard qu'hier, il y avait cette échelle. Pendant qu'il dormait, dans un songe, je vois l'échelle qui relie la terre et le ciel, les anges qui montent et qui descendent. Et cette fois-ci, c'est plus agité que jamais. Parce que c'est un combat, une nuit de combat. Aujourd'hui, on pourrait dire un cauchemar, mais ce n'est pas un cauchemar. C'est quelque chose qui a un sens spirituel, ces combats nocturnes. S'agit-il de Dieu ou bien d'un ange qui combat Jacob? Il faut l'interpréter de façon symbolique, métaphorique. Il s'agit du combat entre la lumière et les ténèbres. Dans chacun de nous, il y a des ténèbres. Dieu est lumière. Mais en nous, il y a la lumière, c'est-à-dire ce que nous avons de positif, des qualités, mais il y a aussi les ténèbres en nous. Les ténèbres sont des défauts, sont des pesanteurs, des antivaleurs qui habitent en nous. Et dans ce combat, il y a certainement, d'une part, la lumière divine, qui combat les ténèbres qu'il y a en Jacob. On présente ce combat comme étant le combat entre deux entités, c'est-à-dire un être surnaturel et Jacob qui est un être humain. Mais en réalité, c'est le combat entre la lumière et les ténèbres qu'il y a dans la vie de Jacob. Jacob s'en sort très bien, c'est-à-dire que le combat a été profitable pour lui. Ce combat entre la lumière et les ténèbres qui sont dans Jacob a permis à Jacob justement de dissiper les ténèbres. Il devait lutter pour que ces ténèbres soient dissipées par la lumière qui combat ces ténèbres. Et finalement, il s'en sort bien. C'est-à-dire qu'il a plu au Seigneur parce qu'il a laissé le Seigneur, il a laissé la lumière divine dissiper les ténèbres qui sont en lui. Et notre vie est un combat de tous les jours. Il y a en nous le bien et le mal. Ce combat entre Jacob et cet être surnaturel, c'est le combat qu'il y a dans la vie de chacun de nous entre lumière et ténèbres, entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal qu'il y a en nous. Puissions-nous, avec la grâce de Dieu, être des vainqueurs comme Jacob, c'est-à-dire que le bien puisse vaincre le mal en nous, que la lumière puisse vaincre les ténèbres en nous. Chers auditeurs, chers internautes, dans l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 9, des 32 à 38, c'est encore un combat. Jésus combat le mal. Il combat les ténèbres de la maladie. On lui présente un possédé qui était sourd-muet. C'est-à-dire, il y a un démon, un esprit démoniaque qui l'a rendu comme tel, sourd-muet. Et Jésus doit l'exorciser. Ça vaut la peine parce que il faut qu'on écoute la parole de Dieu, il faut qu'on l'annonce aussi. Quand on est sourd, on ne peut pas écouter la parole de Dieu. Et donc c'est dommage. Et quand on n'écoute pas la parole de Dieu, comment dire des choses qui édifient? Il faut d'abord écouter des paroles édifiantes qui sortent de nos lèvres. Viennent du fait que nous avons d'abord écouté la parole de Dieu. Quand on est sourd-muet, et ça c'est symbolique, ça signifie qu'on n'est pas attentif à ce que Dieu nous dit, on n'écoute pas ce que Dieu nous dit, et nos propos ne pourront jamais être édifiants. Les foules furent dans l'admiration, parce que il se mit à parler, le sourd-muet se mit à parler. Il écoutait, il parlait. Aujourd'hui, dans notre société, il y a une pollution acoustique incroyable. Beaucoup de bruit. Peut-on écouter dans le bruit? Peut-on écouter vraiment dans les bruits? Dans une société ou dans certains milieux où les gens vont prier, c'est le bruit. Volume très élevé, on dérange même le voisin pendant qu'on prie. Dans des bars, c'est le bruit. Le bruit partout. Comment pourrons-nous écouter la parole de Dieu? Comment pourrons-nous écouter cette petite voix intérieure, Dieu qui nous parle en nous? N'est-ce pas que nous sommes en train de devenir petit à petit des sourds, du point de vue spirituel, incapables d'observer le silence pour écouter la parole de Dieu? Quand on dit silence, la prière silencieuse, on commence à dormir. Mais quand est-ce qu'on va écouter? On ne peut pas écouter s'il n'y a pas le silence. Et on ne peut pas parler comme il se doit, dire des choses édifiantes, si on n'a pas d'abord écouté. Aujourd'hui, en écoutant cet évangile où Jésus exorcise un sourd muet, nous devons nous tourner vers lui pour qu'il nous donne cette grâce-là. La grâce d'aimer d'abord le silence, l'amour du silence. Parce que si nous aimons le silence, nous allons écouter. Et si nous écoutons Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, ce que nous allons dire sera inspiré par ce que nous avons écouté. Alors nous pourrions dire ce qui est édifiant pour les autres. Dans cet évangile, malgré tout ce que Jésus fait, il y a des gens qui se lèvent contre lui. Les pharisiens disent « c'est par le chef de démons qu'il expulse les démons ». Parce qu'ils n'avaient rien vu de pareil. Il y avait des gens qui avaient des charismes de guérison, notamment chez les Esséniens. Mais quand ils priaient pour les gens qui étaient malades, la guérison pouvait ne pas venir. Et quand la guérison advenait, eh bien c'était progressivement, pas dans l'immédiat. Jésus guérit immédiatement. Et puis, quand il impose les mains, quand il prie pour une personne malade, la personne recouvre sa santé tout de suite et parfaitement. Ça, c'est du jamais vu. Ils étaient habitués à ce qu'on appelait des hommes divins, qui avaient des charismes de guérison, entre guillemets, qui pouvaient vous imposer les mains, prier pour vous, mais ça prenait du temps. La guérison venait progressivement. Là, c'est du jamais vu. Au lieu d'accueillir la grâce de Dieu, au lieu d'accueillir le règne de Dieu qui est parmi eux, et ils vont dire non, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Ce qui est important, c'est que Jésus continue sa mission. Il ne s'intéresse pas à eux. Le texte continue en disant, « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue. » Il ne se laisse pas décourager par les critiques. Dans notre vie, cela peut aussi arriver. Vous faites du bien, vous êtes engagé dans votre paroisse, dans l'église. Vous travaillez de façon exceptionnelle au boulot. On commence à vous critiquer et parfois vous reculez parce qu'on vous critique. Parce qu'on commence à vous calomnier, comme Jésus dans cet évangile, il est calomnié. Lui qui est le Fils de Dieu et Dieu, on dit que c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. On les calomnie. Mais il continue à faire le bien. Parce que le texte dit tout de suite, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue et guérissant les malades. Il continue à faire du bien. Mais parfois, quand ça nous arrive, on a tendance à se décourager. On veut abandonner parce qu'on vous a critiqué. Et peut-être parce qu'on vous a fait quelques observations. Ou bien encore parce qu'on vous a calomnié. Vous dites, bon, si c'est comme ça, je laisse. Non, Jésus ne laisse pas. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ça, c'est le deuxième message, deuxième leçon à tirer de cet évangile. La première leçon étant, aimons les silences pour apprendre à écouter. Sinon, on devient sourd. Et quand on est sourd, la conséquence, c'est qu'on peut devenir aussi muet. Voilà pourquoi il faut aimer le silence, demander la grâce d'aimer la prière silencieuse, méditation, contemplation, pour apprendre à écouter, afin de bien parler, de dire ce qui est édifiant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne vous lassez pas de faire le bien. Jésus continue à faire le bien, même si on l'a calomnié en disant que c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Et enfin, la compassion. Jésus fut saisi de compassion en voyant les foules, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il ne faudrait pas être indifférent à la souffrance. La souffrance est là. Parfois, on commence à s'habituer avec la souffrance, si bien que ça ne nous dit plus grand-chose. Voir des gens qui sont en train de mendier sur la route, on est habitué à ça. Voir des gens qui vivent dans des situations difficiles, qui ne mangent pas, qui ne parviennent pas à nouer les deux bouts du mois, on est tellement habitué avec ça, ça ne nous dit plus grand-chose. Nos cœurs ne compatissent plus. La compassion, c'est ça la miséricorde. Dieu est miséricordieux parce qu'il compatit à notre souffrance. Il n'aime pas nous voir souffrir. Demandons aussi cette grâce de la compassion à l'égard de nos frères malades, nos frères prisonniers, les victimes de la guerre, les réfugiés. Puissions-nous avoir un cœur semblable au cœur de Jésus, un cœur qui compatit. Parce que quand il y a la compassion, on pourra intervenir pour aider tant soit peu ceux qui sont en difficulté. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Le Dieu que j'ai a fait jaillir en moi les merveilles, et j'ai crié de joie, et j'ai crié de joie.
Il m'a comblé de sa tendresse à l'instant même où j'ai dit oui pour donner corps à sa promesse.
Le Dieu que j'aime a fait jaillir en moi des merveilles, et j'ai crié de joie, et j'ai crié de joie.
Il m'a donné toute sa grâce en prenant germe dans mon cœur, et désormais toutes les races
comme des rois. Le Dieu que j'ai